الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Les courageux sont là, ils ne sont pas allés pique-niquer. Hein. Bien, nous avons dit que la dernière fois que nous allons entamer donc un nouveau chapitre, ce chapitre sera intitulé Al-Khula. C'est une procédure par laquelle la femme renonce à la vie matrimoniale, à la vie conjugale. Nous allons voir le sens de ce terme. Point de vue langue et comme d'habitude le sens conventionnel de ce terme khula, et puis sa légitimité, pourquoi il a été prescrit, et puis la procédure à suivre pour qu'il y ait khula inshallah, et quelles sont ses conséquences au niveau de la vie conjugale, et en même temps est-ce qu'il est synonyme de divorce, quelle est la période de viduité qui en découle, l'aïda qui en découle. Est-ce qu'il peut y avoir, après ce renoncement, reprise de vie conjugale? Donc tout cela, nous allons le développer, inshallah, avec les avis des écoles juridiques, bihawlillahi ta'ala. Donc, le terme « khulu'un », comme le nom indique, il est un dérivé, ou a pour racine, le verbe « khala'a ». « Khala'a », c'est « enlever ». Mais aussi, on utilise le verbe « khala'a » pour dire « se déshabiller ». Mais il y a l'idée toujours de se dévêtir et d'enlever quelque chose. Donc, c'est le fait d'enlever, de défaire. Mais surtout vraiment l'idée d'enlever ou de lever. Pourquoi? C'est-à-dire parce que l'image littéraire ici, le sens linguistique, va rejoindre le sens conventionnel. La femme, elle va, entre guillemets, sens figuré, enlever. Quoi? Le lien matrimonial. Elle va demander ce qu'on enlève et elle se décharge. Elle va enlever ce lien qui la lie à l'homme, qui est le lien matrimonial. Et donc, de point de vue donc conventionnel, c'est le fait d'enlever ou de lever, donc comme j'ai dit, la relation matrimoniale ou la relation conjugale. Ça, c'est le terme « khula ». Bien, les écoles, ils vont chacun donner une définition propre à elles. Et chacun, sa définition va être soit elle est générale, soit elle est restreinte, soit il va axer sur un élément bien précis. Et donc, je vais vous donner quelques définitions ici. Alors, je vous donne la définition, par exemple, des Malikites. Ils disent, c'est un divorce. Ils l'assimilent donc à un divorce. Ils utilisent le terme « talaq ». Donc ils disent le khula, c'est un divorce, mais avec une contrepartie. Iwaf. C'est-à-dire, la femme va donner quelque chose en partie, en contrepartie à ce divorce. Il dit, il peut être de prononcer donc cette demande, ce divorce, contre une contrepartie, peut être initié soit par la femme, ou par son tuteur, ou quelqu'un d'autre. Qu'elle délègue, à qui elle délègue cette tâche. Donc ça c'est donc le sens, je le répète, selon les Malikites, Il l'assimile à un divorce. Il utilise dans leur définition le terme talaq, carrément. Mais ils disent huwa talaq bi'iwadin. Al-iwad, c'est la contrepartie. Qui va le demander, qui va faire cette démarche? Soit c'est l'épouse, soit c'est l'wali, son tuteur, soit quelqu'un d'autre à qui elle va déléguer cette tâche. Et le terme utilisé, c'est le terme khola, ou ce qui peut le signifier, ou un terme qui lui synonyme. Donc ils disent wa yaqa'u bi lafdh al-khul'i. C'est-à-dire, il va dire, elle va demander à l'homme, elle lui dit, je veux mon khola, et lui il va lui dire akhla'uki aw ikhtala'tu. Ou elle va le dire, on va voir qui va le dire. Donc soit on va utiliser le terme khola ou c'est un terme qui lui est synonyme ou qui donne le sens. Donc c'est une séparation, si on résume la définition des malikites, c'est une séparation, mais contre une contrepartie. Mais il peut être aussi, ils disent les malikites, sans contrepartie. Mais le principe de base, ils ne sont pas en train de se contredire. Hein. La définition, la première que j'ai citée des malikites, elle est juste, elle est conforme au Coran et à la Sunna de la sallallahu alayhi wa sallam. Mais simplement, ils disent sans contrepartie, c'est-à-dire l'homme peut ne pas demander, peut ne pas réclamer la contrepartie. Alors ils disent les malikites, fayakoulou, l'homme dit les aujatihi, khala'atuki. Donc c'est elle qui demande, hein, nous avons dit, rappelez-vous, j'ai dit, c'est elle ou son tuteur ou une personne à qui elle délègue cette tâche. Ils vont faire la démarche, la demande auprès du mari, contre une contrepartie. On va définir cette contrepartie après, mais les malikites disent, mais ça peut être sans contrepartie. Et ils l'assimilent à un divorce. Et lorsque la demande est faite, alors l'époux dit à son épouse, khala'atuki, ou un terme qui signifie le sens de khala. Voilà, ça c'est la définition des malikites. La définition des hanafites, l'ahnaf, ils disent, c'est le fait d'enlever. D'enlever quoi? Lorsque un homme se lie à une femme par le contrat de mariage, quelque part en vérité, rappelez-vous, j'en ai parlé, mais je le rappelle, c'est comme si elle lui a donné tutelle sur sa personne, librement. C'est comme, entre guillemets, elle accepte d'être, entre guillemets, un milk. C'est pas propriété, mais j'ai dit, comme si, parce qu'elle va être emprisonnée dans ce cadre de vie conjugale, des responsabilités, les enfants qui en découlent, et des tas de tâches, des tas de responsabilités. Et donc, ils disent, les hanafites, c'est izalat. On va enlever, entre guillemets, cette propriété, entre guillemets, du mariage. C'est-à-dire, l'homme, il dit, yazaoujati, comme si elle est à lui. Mais je ne parle pas de propriété dans le sens du terme. Hein. C'est-à-dire, c'est ma femme, c'est à moi. C'est mon mari, il est à moi. Donc, ce il est, ou elle est, donc on va l'enlever. Enlever quoi? Le mariage. Elle dit, et cette levée est conditionnée de l'acceptation de la femme. C'est la femme qui va accepter. Parce que c'est elle qui fait la démarche. Parce qu'un homme ne peut pas faire de khola. L'homme ne fait pas de khola. L'homme, nous avons vu, il divorce. Tandis que la femme, nous avions dit aussi qu'elle divorce si l'homme lui a accepté que dans le contrat, elle a ce qu'on appelle « ismatuha biyadiha ». C'est-à-dire, elle dit, je veux, le jour où je veux me séparer de toi par le divorce, c'est moi qui le décide. S'il accepte, et dans le contrat, les malikites, ils disent, il est effectif. Il doit respecter cet engagement. Et nous avons vu aussi que le juge peut divorcer pour la femme, pour cause de dommages subis, moral ou physique, ou négligence. Des tas de choses, on a parlé. Là, nous parlons d'une démarche où il y a absence de cause, en vérité. Alors c'est pour ça qu'on a dit, donc c'est la femme qui va faire cette démarche. Donc il dit, c'est elle donc qui accepte et qui fait cette démarche, Et cela se passe par le terme, par l'utilisation, l'usage du terme khola ou un terme qui a le même sens. Donc ils ont dit ici, lever cette propriété, entre guillemets, du mariage matrimonial par l'accord de la femme, que l'homme lui dit khala tuki, il va utiliser le terme khala, ou celui qui lui est si, un terme qui signifie le même sens. Les shafi'ites, ils disent c'est une séparation entre les deux époux, donc ils utilisent le mot firaq, séparation, entre les deux époux, par l'utilisation donc contre une contrepartie, l'iwad, en utilisant soit le terme divorce ou le terme khola, soit le terme talaq ou le terme khol'un. L'un ou l'autre, c'est bon pour eux. Donc, lorsqu'il accepte contre cette contrepartie, il dit talaqtuki. Ou il dit khala'tuki, les deux sont corrects. Chez les shafi'ites, donc il lui dit khala'tuki ou talaqtuki contre telle chose, telle valeur. Et la femme accepte. C'est-à-dire, son acceptation de la contrepartie est importante. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, il y a des hommes qui vont conditionner la séparation. Il va commencer à faire de la surenchère. Il n'accepte pas qu'elle lui rende la dot. Il y a des gens qui abusent et qui demandent des sommes exorbitantes, inimaginables, pour qu'elle ne puisse pas accéder à cette liberté. Sinon, elle doit faire une démarche auprès du juge. Et ce que là, on découle au niveau de la tente et des dépenses, etc. Donc il y a des gens aussi qui n'acceptent pas le fait que leur femme veut s'y séparer d'eux, alors ils lui posent des conditions inimaginables pour qu'elle ne divorce pas, pour qu'elle ne se sépare pas de lui. Donc voilà ça, donc la position des Shafi'ites. La position des Hanbalites parle aussi des séparations. Il dit c'est l'homme qui se sépare de sa femme, c'est l'homme qui se sépare de sa femme contre une contrepartie qu'il touche auprès d'elle ou de quelqu'un d'autre, en utilisant des termes spécifiques, mais ils ne disent pas lesquels, mais sur certains ils parlent de termes khola. Ils disent après, et le khola, il est valide sans contrepartie. Dans d'autres versions de l'école Hanbalite, la contrepartie est un des piliers de khola. On ne doit pas le délaisser. Il considère annahu rukn, c'est un pilier du khola. Et on ne doit pas le délaisser. Ils comparent et disent comme quelqu'un qui contracte, il signe un contrat entre deux contractants pour acheter quelque chose, ben il faut donner la contrepartie. Donc voilà, ça c'est leur définition. On donne les définitions terre à terre, hein. Vous voyez, c'est du sec, c'est du droit. Ça c'est le principe qu'ils posent pour parler du khola. Est-ce que maintenant, quel est le statut du fait de recourir à le khola? Surtout que nous avions vu la dernière fois le hadith de Rasoul Sallam qui fait peur, dans lequel il dit toute femme qui demande divorce à son mari sans aucune raison, elle ne sentira pas point l'odeur du paradis. Et nous avions bien sûr expliqué ce qu'a dit l'imam Shawkan et d'autres sur le sens, c'est pour montrer la gravité de la démarche et non pas l'interdiction. Et non pas que la femme, pour de bon, elle ne sentira pas l'odeur du paradis, mais c'est une manière pour dire que c'est un acte grave. Puisque le principe, on ne doit pas défaire le lien matrimonial. On doit vraiment chercher par tous les moyens à faire durer cette union. Mais la grande majorité des savants disent qu'il est permis. Et ils disent si Allah l'a légiféré et son prophète, c'est parce que les gens en ont besoin. Il arrive qu'une femme n'aime plus son mari. Il arrive que des femmes, qu'une femme n'aime plus vivre avec son mari. Pour des raisons multiples. Ça peut être des raisons d'ordre physique. Ce n'est pas des raisons d'ordre moral. Il y a le respect, comme on a vu la question, ce qui s'est passé avec Thabit et sa femme, compagnon de Rasulullah sallam, et Fatima. Donc le hadith est dans le Bukhari, elle a dit à Rasulullah sallam, Thabit, c'est un bon mari, un bon musulman, un bon époux, doux, etc. Mais Rasulallah, je l'aime plus. Lorsque je le vois loin avec les autres compagnons, il me paraît le plus laid. On a un proverbe dans mon pays d'origine qui dit « Kul shay bisif la habbi bil kif ». Toute chose peut se faire sous la contrainte sauf aimer. Vous pouvez obliger quelqu'un à faire tout, mais vous aimer par la force, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, elle, c'est ça ce qu'elle a dit. Elle a dit, Rasulallah, j'ai rien contre lui. C'est un bon mari, c'est un bon compagnon, c'est un sahabi. Radiallahu anhu. C'est pas n'importe qui. Voilà qu'il est Rasulallah, je n'aime plus. Le cœur n'y est plus. On ne peut pas contraindre quelqu'un à vivre avec quelqu'un qui. Donc, ils disent, nous savons, ça peut être pour des causes donc physiques. Comme ça peut être pour des questions de caractère et d'ordre moral. Par exemple, je ne sais pas moi, imaginons cette femme, elle vit avec un mari qui est avare. Il compte le pain qu'elle amène chaque jour et il compte le nombre de bouchées qui ont été mangées. Et combien nous sommes quatre, pourquoi le pain est fini alors que si quelqu'un prend un morceau, il devrait rester encore pour le soir. Et il est en train de suivre tout. Un homme avare, c'est un homme invivable. Et donc, il dit ça peut être pour des causes religieuses. La personne au début était une bonne pratiquante, puis la samahallah, vous savez, hein, l'individu peut changer par les fréquentations, par les attraits de la vie. Combien de personnes, oh, elle était pratiquante, et puis elle cesse de pratiquer. Et vice versa. Donc, elle se marie avec quelqu'un qui était pieux, qui était un homme qui régulait dans ses prières. Puis subitement, ni prière, ni qiraat al-Qur'an, ni évocation de Dieu, il parle que de fric, de sortie, etc. Et la femme, elle veut garder sa ligne droite dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'arrive pas, elle patiente, elle patiente. La femme dit, moi je ne vais pas passer ma vie à courir derrière lui pour qu'il prie, pour qu'il fasse ceci. Donc ils disent, donc il peut avoir des raisons d'ordre religieuse. Donc ils disent, peut-être donc même des questions d'ordre de santé. Vous allez me dire, oui, mais la loyauté exige que lorsque l'homme tombe malade, la femme doit lui tenir compagnie, il doit le soutenir et vice-versa. Je suis d'accord, c'est beau comme principe, mais pas tout le monde qui est capable de patienter. Il y a des gens, ils sont capables de patienter et d'être loyaux jusqu'à parfois la mort de leur partenaire et ils l'entretiennent et ils considèrent ça comme une action fisabilillah. Et puis il y a d'autres qui, après un an, deux ans, disent, moi j'ai envie de vivre ma vie. Là, ce ne sont pas tous égaux, hein. Ils n'ont pas la même capacité ni la même conception de la loyauté et de l'affection, de la compassion, de l'amour. Il faut être réaliste. Et comme vous le savez, parmi les caractéristiques de notre religion, c'est le réalisme. Al-waqi'iyya. Notre religion prend en considération la réalité et la réalité des gens. Donc on ne peut pas contraindre les gens. Si la personne veut le faire et acquérir des hasanats, tant mieux pour elle. Mais si elle ne sait pas, elle n'a pas commis un haram. Elle dit, je ne sais pas patienter, j'ai peur pour ma chasteté. Par exemple, si c'est un homme ou une femme, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, cours le risque de tomber dans le zina. Donc, c'est ça le réalisme de cette religion. Ce qui fait donc, voilà. Alors, ils disent, il y a tellement de raisons. Et alors, vous avez par exemple des femmes qui sont pieuses. Elles disent, moi je veux être honnête et j'ai peur de Dieu, j'ai peur de manquer à mes devoirs. J'ai peur, je n'arriverai pas à suivre. Vous me dites, ça ne fait rien, hein. Essaie de faire comme Evie avec lui, elle vous dit, oui, je fais ça depuis 5 ans, mais je n'arrive plus. Et j'ai peur de ne plus respecter cet homme, de ne plus m'acquitter de mes devoirs. Islamiquement, un savant sensé, un homme de notre communauté, un conciliateur sensé, lorsqu'il voit qu'il y a un danger, bah, il recommandera le divorce pour de bon, s'il y a peur, s'il y a crainte. Et donc ils disent, l'islam a légiféré en parallèle avec le divorce, où l'initiative appartient à l'homme, les prérogatives appartiennent à l'homme, la priorité appartient à l'homme, et bien il a aussi légiféré pour la femme un moyen de défaire ce lien. Pourquoi? Pour qu'elle soit libérée de tout dommage et de toute forme de nuisance, morale ou physique. Donc, raf al-haraj, lever de tout ce qui est dommage. Et rappelez-vous, notre religion, parmi les règles qui ont été déduites par nos savants, à partir d'une des finalités de la loi, qui est al-maslaha, l'intérêt, ils ont déduit beaucoup de sous-règles parmi lesquelles raf al-haraj. Il faut lever toute source de gêne et de dommage. Et donc c'est pour ça, partant de ce principe de lever la gêne et le dommage qui fait partie de l'esprit de la loi de Dieu, il est tout à fait normal que Dieu subhanahu wa ta'ala accorde à la femme une voie par laquelle elle se libère de cette situation. Le Coran a indiqué cette possibilité dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 229, où Dieu parle de la compensation que la femme peut avancer, nul grief par rapport à ce qu'elle avance qu'en contrepartie, Dieu dit dans ce passage. Et vous avez aussi dans la sourate 4, le verset 4, et vous avez aussi, Dieu en parle, dans la sourate 4, le verset 128. Voilà, quelques lieux, quelques textes où Dieu parle, subhanahu wa ta'ala, de Al-Khala. Et bien sûr, dans la sunna, il y a tellement de hadiths, mais surtout le plus fameux hadith, le plus connu, c'est celui, comme je vous ai dit, de Thabit ibn Qais, de son épouse, le hadith rapporté par Ibn Abbas, et qui a été confirmé par Al-Bukhari, Al-Nasa'i, Ibn Majah et autres, que je venais de vous citer. Alors, quels sont les termes? Donc voilà, j'ai rapidement donc énoncé quelques textes pour dire que le statut et pour que, voilà, la base sur laquelle s'appuient les savants pour considérer qu'il est permis. Maintenant, quels sont les termes utilisés par les écoles pour exprimer cette volonté de khola? Alors, les hanafites, ils ont les termes suivants. Ils disent, on utilise le terme khola. Je vais vous le donner en arabe, je traduis en français après. Al-mubara'atu, al-khul'u, al-mubara'atu. Troisième terme, al-talaqu. Quatrième terme, al-mufawadatu. Vod. Quatrième terme, qui va vous surprendre, al-bay' wa shira, la vente et l'achat. Donc, si je traduis, al-khul'u, donc c'est la levée du lien matrimonial ou conjugal. Al-mubara'atu, c'est lorsque vous dites, quand vous avez le terme, on l'utilise dans le bara. Al-wala ou al-bara. Al-wala, c'est l'alliance, et al-bara'atu, c'est le fait de se désengager. Donc c'est le désengagement. 3, le divorce. 4, al-mufawada fawadtu, c'est-à-dire je délègue un tel la démarche de me libérer de lien. Et le 5, le cinquième, c'est la formule, c'est-à-dire je me rachète donc contre une contrepartie. Je rachète quoi? C'est-à-dire ma liberté de ce lien matrimonial. Ça, ce sont les 5 termes utilisés par les hanafites en arabe pour exprimer donc cette demande de lever du lien conjugal ou matrimonial. Les malikites, il y a 4 termes. Ils utilisent le terme al-khola, puisque s'il est dans le Coran et dans la sunna, c'est tout à fait normal que c'est le premier et c'est le terme de base. Deuxième terme, al-mubara'a, des engagements. Le premier donc, le fait d'enlever ou de lever. Deuxième terme, c'est le désengagement. Troisième terme, al-fidya. Al-fidya, c'est la rançon. Al-mufadat, al-fidyatu. Et il utilise aussi le terme solah. Solah, c'est pas la conciliation. Ici, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a un pacte de conciliation, mais contre quelque chose. Parce que les pactes qu'il y a lorsqu'il y a une situation de guerre ou quoi, la solah se fait aussi contre une somme que paie par exemple l'ennemi pour cessation de guerre et d'hostilité. Et donc, c'est comme s'il dit par pacte, je te donne telle valeur et donc on se sépare. Comme les deux armées se séparent, c'est une image. Parce que parfois, le khola vient parce qu'il y a une catastrophe, situation de guerre. Ça va? Mais le principe, vous allez voir qu'en islam, on ne doit pas arriver à ça. Un homme sensé doit accepter, comme a accepté Sayyidina Thabit. Il n'a pas discuté. Rasoul sallam lui a dit, est-ce que tu lui rends son verger? C'était la dot, un jardin fruitier, d'arbres fruitiers. Elle a dit, je lui rends il a reçu son verger et il a divorcé. Et il n'a pas chipoté, il n'a pas discuté. Et c'est ça la règle. Ils disent la sunna, c'est vraiment si on essaie de faire la réconciliation. Ça c'est clair. Mais si on voit que ça ne sert à rien, le mari ne doit pas refuser. Il ne doit pas tenir terre. La sunna de Salam, c'est qu'il doit accepter. Mais on va voir que ça peut aller même devant le juge pour l'obliger parfois. Certains disent qu'on peut aller vers le juge pour qu'il l'oblige. Les Shafi'ites et les Hanbalites, ils ont les mêmes termes qu'ils utilisent. Et donc, leur terme, c'est le terme divorce, un terme explicite de divorce, talaq sarih. Donc, un terme explicite de divorce. Ils disent, on peut utiliser un terme qui exprime la séparation par allusion. Par allusion avec l'intention. Il faut former l'intention qu'il s'agit de khala. Donc ils disent, on peut utiliser donc une formule par allusion, mais par laquelle on exprime le khala, mais il faut qu'il y ait l'intention niya. On peut utiliser le terme al-khala, qui est le terme de base, la levée du lien matrimonial ou conjugal. Ils permettent aussi l'utilisation du terme fidya, comme les malikites. Fidya, c'est-à-dire le fait, entre guillemets, rançon, se rançonner. Et ils ajoutent un terme que nous avions vu lorsqu'il y a un vice dans la procédure du contrat, c'est ce qu'on appelle le fasr, l'annulation. Ils permettent d'utiliser le terme al-fasr, l'annulation. Donc voilà, ça ce sont les termes propres à ceux des écoles. Alors, nous avons vu la légitimité, et nous avons vu les formules selon les écoles. Maintenant, quel est le statut légal lorsqu'une femme demande? Est-ce qu'on va dire à l'homme, t'es obligé? Ou est-ce que c'est répréhensible qu'elle demande? Alors ils disent, la grande majorité des savants disent, la sunna, ce qui est conforme à la sunna de Rasulullah, c'est que l'homme doit répondre à la demande de sa femme. La sunna, yusannu. C'est-à-dire, si cet homme musulman veut respecter la sunna de Rasulullah, il lui est recommandé donc de répondre à la demande. Et il cite ici, bien sûr, l'anecdote entre Thabit et son épouse, rapportée par le Bukhari. Il est recommandé à la femme d'être patiente si l'homme il est correct et droit. Donc ils n'ont pas dit il est mauvais, on lui dit qu'on l'assa au soir. On n'a pas dit ça. Il n'y a nulle part dans le droit musulman, ni dans les citations des savants de l'islam, qu'un homme peut tabasser sa femme matin et soir, et on lui dit accepte d'être violenté, et il ne dit rien. Ça n'existe pas, je suis sérieux. Notre prophète sallam a dit, une parole claire concernant ses compagnons qui ont frappé leur épouse, alors que le contexte était différent. Rappelez-vous hein, la descente du verset dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala appelle à exhorter la femme et après à chercher réconciliation et puis à se séparer d'elle, dans ne plus lui parler, puis se séparer d'elle dans les lits. Et puis après il a dit « Fadribuhunna ». Ce verset, il est très important de connaître son contexte et la cause de sa révélation. Pour comprendre comment, déjà, ce que veut dire « Daraba », et comprendre pourquoi Dieu a révélé ce verset. Rapidement, vous savez très bien que on nous rapporte du point de vue historique que la mentalité des hommes de Mecca n'est pas celle de mentalité des hommes de Médine. Ils sont différents du point de vue caractère. Les hommes de Mecca, ce sont des hommes fermes, de caractère, stricts et durs, et la femme n'a pas aucune participation à la décision. C'est la mentalité des Mécois. Les gens de Médine avant l'islam de Yathrib étaient des gens très conciliants et leurs femmes participaient. Elles avaient le droit à la parole et à la consultation même. Et la preuve, rappelez-vous combien de femmes de Médinoises ont émigré pour la première émigration en Abyssinie, qui sont venues toutes seules pour faire le bay'a, l'acte d'allégeance à la sallam en secret, et puis après elles vont partir aussi en émigration. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu le hijra de Mecca vers Médine, les femmes de Mecca vont voir, on va dire, les prérogatives dont jouissaient les femmes de Médine. Mais elles n'ont pas compris que c'était des usages qui datent depuis des siècles ancestrales. Ça n'a rien à voir déjà avec l'islam. Et elles, lorsqu'elles ont vu cette situation, elles ont voulu acquérir les mêmes droits. Oui, mais auprès d'hommes qui, depuis des siècles, ils n'avaient pas cette attitude. Alors, au lieu de la jouer, on va dire, d'une manière diplomatique, et petit à petit amener leur mari à accepter et à prendre conscience de cette nouvelle situation, elles sont allées, les femmes, à l'affrontement. C'est-à-dire, on va dire ça d'une manière simple, elles rentrent à 5h ou à 6h, où est-ce que t'es, c'est pas tes affaires. Je vais sortir, où est-ce que tu vas, t'as rien à me poser. C'est pas ton... De dire ça à Sidna Omar ibn al-Khattab et à d'autres. Alors les compagnons ont dit, mais quoi, ont commencé à se plaindre à Rasulallah sallam de la rébellion. Parce qu'il y a eu un état de nushuz, de rébellion, et le terme de nushuz veut dire rébellion injustifiée. Ce n'était pas une rébellion justifiée. C'était vraiment, on veut acquérir les mêmes droits, bon gré et mal gré. Voilà, c'est ça. On vous met devant un fait accompli, des gens qui vivaient depuis des siècles, d'une autre manière, on leur est obligé de changer, mais avec force, morale. Ils n'ont pas accepté. Alors ils sont venus se plaindre à Rasulallah, les compagnons. Et le prophète sallam leur demandait de patienter jusqu'à ce que Dieu a révélé le verset dans lequel dit « Wallati takhafuna nushuzahunna ». Donc vous voyez, ce n'est pas un comportement à avoir avec sa femme qui est quelqu'un de bien, comme on voit actuellement. Il y a des hommes qui tabassent leur femme alors que ce sont des bonnes épouses. Cela, Cheikh Tahar ibn Ashur dans son Tahrir al-Tanwir dit, le juge musulman peut les sanctionner même par l'emprisonnement. Parce qu'il frappe sans justification déjà. Cela peut être puni par tazir, donc des peines correctionnelles. Donc, les compagnons, lorsque Dieu a révélé le verset, ils n'ont pas vu fa'ivuhunna, exhortez-les, et puis ceci, puis cela. Ils ont vu fadribuhunna. C'est-à-dire, depuis des mois, la rébellion était dans les maisons, dans les foyers, et les compagnons étaient en train de mal digérer ça. Eh bien, certains d'entre eux, ils sont revenus à la maison et ils ont tabassé directement. Alors, certains épouses sont venues se plaindre. Ils sont venus à la maison de Rasoul Sallam, ils ne l'ont pas trouvé, ils ont déposé plainte auprès de ses épouses. Lorsque Sayyidina Muhammad Sallam est venu et que ses épouses l'ont informé, il a dit cette fameuse parole, il est sorti à la mosquée, et il s'est adressé à ses compagnons, il a dit « La khattaf al-laylata, kathiru min al-niswati ». Beaucoup, ce soir, beaucoup de femmes sont venues dans la maison du prophète pour se plaindre de leur mari. C'est-à-dire qu'ils ont frappé. Oulaikum, laysu bikhiyarikum. Ceux-là, ils ne sont pas les mères d'entre vous. Et puis il a dit, comme vous le savez, le hadith de Rasoul Sallam, khayrukum, khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum li ahli. Mère d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur, qui agit le mieux envers sa famille. Il veut dire ses épouses, son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour le contexte. C'est très important de connaître le contexte. Maintenant, comment a expliqué Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Et tous les exégètes dans le Qurtubi, le fa'al dharaba, ils disent, c'est dans le dharaba, c'est avec son oud de siwak, là, arak, ou avec son mouchoir. C'est un geste pour dire, je ne suis pas d'accord. Tu es arrivé à un degré de désobéissance inacceptable. Mais ils n'ont pas dit, frapper, il n'y a pas. Et même dans la langue arabe, vous savez, le terme frapper a un sens bien précis, selon la personne qui l'utilise. Lorsque vous dites, je frappe à votre porte, c'est-à-dire, c'est vraiment des coups clairs, simples. Mais lorsque vous venez, vous cassez ma porte, vous ne frappez pas à ma porte. Au lieu de vous ouvrir, je sors en colère. Il y a une différence entre frapper et entre détruire. Ça, c'est une. Un bon père et une bonne épouse qui éduquent ses enfants, ils ne les violentent pas. Le fait de frapper ses enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire les détruire? Ça veut dire se défouler sur eux? Ça veut dire les frapper avec une cravache? Les frapper avec, je ne sais pas, un tuyau, avec un bâton, ça, c'est pas de l'éducation, ça. Ça, c'est de la violence gratuite et elle n'est pas conforme à l'éducation. Et la preuve que c'est quelque chose de banni, cette violence de notre religion, c'est que notre prophète sallam n'a jamais frappé une femme, un enfant ou quelqu'un qui était à son service. Unanimement, on a ce hadith. Ça, c'est une. Deux, l'imam Muhammad ibn Sahnoun, le fils de l'imam Sahnoun, rahimahullah ta'ala, celui qui a fait le Mudawna al-Kubra, de l'imam Malik, était très connu comme, on va dire, pédagogue. Il a écrit un livre qui s'appelle Adab al-Muallimin. Il a écrit 4e siècle de l'Égypte. Les règles à observer par les instituteurs. Et il a condamné les instituteurs qui frappent les enfants. Il a dit de ne pas laisser son enfant auprès d'un maître qui frappe. Qui frappe. Vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de laisser votre enfant, même s'il lui apprend l'ilm al-shar'i. De laisser votre enfant devant quelqu'un qui le martyrise. C'est interdit. Interdit. Donc, lorsque vous prenez le verset Fadribuhunna, prenez-le selon quoi? Selon l'explication concrète de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, la sunna, elle explique le Coran. Et le prophète explique le Coran par sa parole, par ses actions, par ses approbations. Les actions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'a jamais frappé. Voilà l'explication du verset. Et les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a permis que l'on frappe. Même il a condamné que l'on frappe. Et qu'est-ce qu'ont dit les sahaba, radhiyallahu anhum, comme c'est Abdullah ibn Abbas, Hibrul Umma, l'irdi de la Umma. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants après? Et nous allons voir tous les savants condamnent la violence envers les femmes. Que dire envers son épouse lorsque c'est gratuit? Donc ici, on demande à la femme de patienter lorsque l'homme est quelqu'un de droit et de bon. Mais lorsque c'est un homme qu'elle n'aime pas, à cause de ce que nous avons cité comme cause, à ce moment-là, il faut lui permettre de se séparer. Et en plus, comme nous avons dit, puisque la légitimité du divorce, du khola, a été confirmée par le Coran et la sunna de Rasulallah et sallallahu alayhi wa sallam. Bien, maintenant on va parler de cette contrepartie, al-iwad, qui n'existe pas, bien sûr, dans le divorce. C'est un élément important dans la démarche de khola. Puis dans le divorce, il n'y a pas. Dans le divorce, nous avons dit s'il y a un arriéré, c'est-à-dire s'il y a une autre portée, en partie entièrement, elle est due obligatoirement lorsque la fin de l'Idda est arrivée. Lorsqu'on arrive à Akhr al-Idda, de trois cycles menstruels de trois mois, là, il doit, l'homme, lui donner toute sa dot. C'est obligatoire. C'est clair? Ça, c'est sans discussion. Donc, ici, l'Awad, donc, il en fait partie, ils disent toute chose qui est permise pour servir de dot, de mahr, peut servir de khola. Toute chose. Donc, toute chose donc, qui est permise pour qu'elle soit prise en considération dans un sadaq, dans un mahr, une dot, elle est aussi permise dans le khola. La contrepartie peut être toute la dot, ou une partie de la dot, ou un autre bien, comme le disent les Shafi'ites. Cette contrepartie, elle est donnée, versée par la femme ou par son tuteur. Chez les Hanafites, ils disent, on n'est pas obligé de le préciser, cette valeur, et même de le mentionner, de l'écrire. Mais les Hanafites, donc, il n'est pas obligé de le mentionner, ça c'est les Malikites et les Hanbalites, de le signer, de l'écrire, de le consigner. Mais les Hanafites et les Shafi'ites exigent qu'on le précise cette valeur. La majorité, le Jumhur, rappelez-vous, je vous ai dit le terme, je vais vous dire la majorité, permettent que l'homme reçoive plus que ce qu'il a donné, par exemple, dans comme dot. Permettent. Et il se réfère à la sourate al-Baqarah, le verset 229. Dans ce verset, je dis « فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ » Donc il y a nul grief par rapport à ce qu'elle va verser comme dot pour se séparer. Ou comme contrevalle pour se séparer. Donc il n'y a pas de junah, il n'y a pas de grief. Et ça sous-entend que la valeur soit une autre valeur que le mahr, que la dot. Il n'y a pas de mal. Mais comme j'ai dit, ce qui est condamnable, c'est lorsque l'homme commence à surenchérir pour ne pas permettre à la femme d'avoir sa liberté et de se défaire de ce lien facilement. Certains savants, j'ai dit la majorité permettent, et d'autres disent il ne doit pas dépasser la valeur de la dot. Donc la grande majorité, le Jumhur, permettent, et il se réfère au verset, surat 2, verset 229, d'autres ils disent on ne doit pas dépasser. Alors sur quoi se base-t-il? Sur un hadith rapporté par Dharqutni. Donc avec une chaîne jugée authentique. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté qu'on rajoute plus que la dot. Ou qu'on demande plus que la dot. Donc nous avons un verset 229, sera 2, utilisé par le Jumhur pour dire il est permis de verser plus ou de demander plus que la dot. Nous avons Certains savants disent non, on ne peut pas dépasser la valeur de l'mahr, de sadaq. Quel est leur appui? Hadith jugé, sa chaîne est jugée sahih. D'après Daraqutni, anna rasoul sallam rafada, il a refusé qu'on rajoute ou qu'on dépasse la valeur de la dot. Voilà, vous avez les avis de chacun. Peut-être les premiers ont plus, leur avis a plus de force. Pourquoi? Parce que le verset du Coran, le Coran est plus fort quant à sa certitude, quant à son origine et, à son, et surtout le sens est explicite que le hadith. Parce que le hadith peut être ahad, isolé. Et le hadith ahad n'a pas de valeur devant le Coran qui est mutawatir, qui est rapporté par une masse successive, d'après une masse, d'après une masse. Donc le Coran, qat'i ou le wurud, il est de point de vue origine sûr et certain. Tandis que la sunna, il y en a une sunna mutawatir qui est sûre et certaine, mais il y a de la sunna qui est probante. Comme le hadith al-ahad. C'est-à-dire, elle est sûre, mais elle n'est pas certaine. Hadith rapporté par un, il ne peut pas tenir tête devant un Coran rapporté par une masse. D'où, comme vous le savez, dans la science de Ulum al-Quran et dans le Usul Fiqh, dans l'abrogation, le hadith al-ahad ne peut jamais abroger le Coran. Jamais. Vous ne pouvez pas penser dans votre tête en disant, mais hadith Rasulullah, il est sahih, donc il peut lever le Coran. Non, jamais. Pour lever le Coran, il faut un texte qui lui soit égal, point de force. Donc il faut qu'il y ait un hadith mutawatir. Le hadith mutawatir, chez la grande majorité des savants, il peut abroger le Coran, mais pas un hadith isolé, jamais de la vie. Il faut que soit, donc Coran abroge Coran, Coran abroge tout, et hadith mutawatir peut abroger Coran. Le contraire, il ne peut pas se faire. Donc voilà, donc pour ce qui est, ce qu'ont donc les deux, donc concernant la contrepartie. Alors, quand est-ce qu'on peut faire le khola? Quand est-ce qu'on peut recourir à l'khola? Pour les savants, ils disent, il peut avoir lieu même durant le cycle menstruel. Rappelez-vous, nous avons vu pour le divorce que c'est un acte bid'i, d'innovation. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même été en désaccord total avec ce qu'Abdullah Sayyidina Abdullah al-Omar avait fait en divorçant de sa femme pendant son cycle menstruel. Et nous avons vu la position de la majorité, c'est que le divorce a lieu. Et nous avons vu Taymiyyah dit qu'il n'aura pas lieu parce que c'est une désobéissance et autres. Donc ici, il dit qu'il peut avoir lieu dans, durant le cycle ou durant ce qu'on appelle la période de la purification cyclique, Tahr. Donc soit il peut avoir lieu durant le Hayd ou durant la purification cyclique. Ils disent, quel est l'argument de la grande majorité des savants pour permettre cela? Ils disent parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas posé la question à la femme de Thabit. Est-ce que vous êtes réglé ou non? Donc le fait qu'il n'a pas posé la question, ça veut dire qu'il est permis qu'elle le demande, quelle que soit sa situation. Et le hadith est dans le Bukhari. Donc ils disent, notre prophète n'a pas demandé à la femme de Thabit est-ce que tu es réglé ou non. Puisqu'il ne lui a pas posé la question, c'est qu'il est permis qu'il a lieu durant les règles ou en dehors des règles. Donc ça c'est pour ce qui est, donc, est-ce que le khola nécessite qu'on ait recours au juge? Nous avons vu pour le divorce, non, mais nous avons vu ce qu'il demande devant témoin. Nous avons vu pour la révocation, il y a ce qui exige le témoin, nous avons d'autres qui n'exigent pas. Est-ce que le khola doit se faire devant le juge? Est-ce qu'on a besoin du juge? Les juristes disent qu'on n'a pas besoin de juge. Ils disent parce que c'est la vie de Sayyidina Omar et Othman, radiallahu anhumain, et en plus parce que c'est une sorte d'échange avec contrepartie. Donc il y a échange, et donc on n'a pas besoin de présence de juge comme un contrat d'achat. Ba'atuka, a'taytuka, je te donne. Tu prononces le terme khola ou divorce, salam alaykum. Donc, pourquoi? Parce qu'il dit, la seule chose qui est exigée dans la démarche de khola, c'est quoi? C'est le consentement mutuel. C'est ça la condition. On appelle ça riva, bayna tarafayn. Si l'homme refuse, je dis, alors ça devient autre chose. Donc, s'il y a consentement, il a lieu. Comme tout type de transaction. Comme tout type de contrat, on va dire. Dans l'absolu. Qui nécessite vraiment un rida. Alors maintenant, imaginons qu'il n'y a pas de consentement. C'est-à-dire, puisque nous parlons de khola, donc nous parlons de la femme qui fait la démarche. Je répète, le khola, ce n'est pas le divorce. J'ai dit, on peut, ils ont permis l'utilisation du terme divorce, mais le khola, c'est une voie par laquelle la femme veut, exprime son désir, de lever le lien matrimonial, de se séparer de son mari, de lever donc toute relation conjugale. Donc on parle de la femme. C'est-à-dire, la femme fait la démarche et le mari refuse. Ils disent, il revient au juge de le contraindre à accepter khola. Ils disent, et la preuve que Thabit ne voulait pas divorcer. Thabit, radiallahu anhu, ne voulait pas se séparer de sa femme. C'est Thabit ne voulait pas se séparer de lui. Il n'a rien demandé. Et donc, ils disent, ici le juge c'est qui? C'est Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, alayhi wa sallam, il lui a dit, tu prends la dot. Et il n'a pas discuté. Donc, c'est-à-dire, quelque part, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné un ordre. Puisqu'il était prêt à donner la contrepartie, il a donné un ordre, et Thabit a obéi. Donc, de là, le hadith est dans le Bukhari, de là, les juristes disent, lorsque la femme fait la démarche, le juge, et que l'homme refuse, le juge peut le contraindre, comme cela a été rapporté par le hadith Bukhari concernant Thabit et son épouse. Les savants musulmans sont unanimes qu'il est interdit à un homme musulman de nuire à sa femme parce qu'elle lui a demandé le khola. C'est-à-dire un homme qui commence à nuire à sa femme parce qu'elle a fait une demande de khola, il est en état de péché majeur. Ils l'ont assimilé à un acte haram. Et rappelez-vous, le haram, c'est tout acte qui engendre péché grave. Donc, ils considèrent que c'est un acte haram. Et la preuve, ils disent, c'est la sourate 4, le verset 19. Et le verset 20. Sourate An-Nisa, verset 19 et 20. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, il dit, « Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karahan. » Oh, vous les croyants, il vous est interdit de disposer des biens des femmes malgré elles. Parce que, et aussi, d'en hériter, c'est-à-dire quoi? Tu veux faire dire l'union pour hériter d'elles, tu veux malgré elles. Et warafasi n'est pas uniquement l'idée de succession, hein, c'est-à-dire que tu disposes d'un bien. Donc, il vous est interdit, Dieu dit clairement, la yahillu lakum. La yahillu veut dire harbim alaykum. Donc voilà pourquoi ils disent qu'un musulman, il n'a pas le droit, il commet un péché. L'imam Malik, ils disent que il y a obligation, qu'il y a khola. Regardez ce qu'il va. Hein. Ils disent si, maintenant, le verset, lorsqu'on lit le verset 20 après, Dieu parle d'interdiction, donc de prendre par la force, mais aussi veut dire aussi, vous n'avez pas le droit de lui faire du mal, du tort, parce qu'elle a fait la demande, et alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tout pour que Miskina, elle commence à dire, tu veux pas accepter ses comptes, voilà, je te donne 100, je te donne 150, 300. Et bien, l'imam Malik dit, s'il fait cela pour la contraindre, pour ne pas faire le khola, et jusqu'à ce qu'elle lui verse des sommes exorbitantes, et bien il dit, on lui reprend par la force la différence par rapport à la dot. Imam Malik dit. Imam Malik dit, il dit, al-badalu al-akhidhi akhadahu al-zawju. S'il l'a forcé pour qu'elle verse une somme inimaginable, et bien on lui reprend ce qu'il a pris et le khola, il est effectif. Il est effectif, punition. Parce que le but, c'est de ne pas que cette union qui s'est faite, comme on a dit, à maintes reprises, dans le respect et dans la tendresse, se défait dans la violence et l'agressivité. L'islam ne veut pas ça. L'islam veut, on s'est marié dans le respect, on se sépare dans le respect. Des droits et des devoirs. Donc voilà ce que donc dit l'imam Malik. La grande majorité qu'on appelle Jumhur ils disent que al-khula, la démarche de al-khula, engendre quoi? Engendre que la femme, elle dispose d'elle-même. L'homme n'a plus aucune tutelle. Lorsqu'une femme demande al-khula, yaj'alu amraha biyadiha. C'est-à-dire, il est obligé d'accepter, et donc c'est elle qui décide si elle reste ou elle s'en va. Donc ça, c'est l'avis de la grande majorité, donc dans lequel il y a les quatre imams. Lorsque je dis la majorité, ce n'est pas des quatre imams, hein, des quatre écoles juridiques. Hein. Lorsque je dis ici, dans le droit, lorsque je dis al-jumhur, je parle jumhur al-fuqaha. La majorité des juristes, dans lequel on intègre l'imam al-Awza'i, Sofiane al-Thawri, Ibn Uyayna, tout. Et ici, ce qui est spécial, c'est que dans cette majorité des savants, on a les quatre imams qui partagent cette opinion. Donc, ils sont dedans, les quatre écoles. Donc, ils disent que la démarche de l'khola fait que la femme, elle dispose d'elle-même. Et il n'a pas le droit à la révocation. Rija. Ce n'est pas un divorce où elle se sépare aujourd'hui, reviens. On va venir... le khola donne lieu à un divorce effectif, non définitif. C'est-à-dire, la femme, elle va partir, elle ne reste pas chez elle. Tandis que dans un divorce, rappelez-vous, le premier ou le deuxième, qu'on appelait divorce révocable, et qui n'est pas... il est révocable tant qu'il est dans la hedda. Après la hedda, il est irrévocable, mais non définitif, puisqu'ils peuvent reprendre vie commune avec contrat et tout ce qu'il y a comme condition. Jusqu'à la deuxième. Troisième fois, il est irrévocable, définitif. C'est-à-dire, il n'y a plus de vue conjugale. Et si, par le khola, lorsque la femme demande au khola, et elle donne la contrepartie, ou il dit, je ne veux pas de contrepartie, il est irrévocable, mais non définitif, mais elle ne reste plus à la maison. Elle va faire la hadda, elle va chez elle. Sayyida, la femme de Thabit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'aller passer sa période de hadda chez la mère de Abdullah ibn Ummi Maktoum. Donc, son épouse, elle n'est pas. Donc, il est effectif, le divorce. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent reprendre? Oui. Puisque si c'est vraiment un khola qui vient à la suite, qui est le premier, il se met à un divorce, ou qui est le deuxième. Mais si c'est le khola, il vient après deux divorces déjà prononcés, c'est fini. À ce moment-là, on va l'assimiler à un divorce irrévocable, définitif. Thalath, talqa. Mais parlons, considérant qu'il s'est assimilable à un premier divorce, eh bien, il est irrévocable, non définitif, c'est-à-dire la femme, elle ne reste plus. C'est comme si sa hadda, elle est passée. C'est comme j'ai dit, mais parce qu'elle doit passer la hadda maintenant, mais pas chez lui. À la différence du mariage, où ils sont liés et il y a divorce, lorsqu'un homme divorce sa femme, elle a le droit de rester chez elle et lui, il n'a pas le droit de la sortir jusqu'à la fin de la hadda. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, l'imam Ibn al-Musayyib, Tabi'i wa Zuhri, l'imam Zuhri, comme vous le savez, il est avec Shihab et tout, ils font partie de la chaîne de transmission de l'imam Malik. Et on appelle ça Salsila al-Dhahabiyya, la chaîne d'or. Tellement ils sont tous honorables, fiables, véridiques, tous. Donc ça s'appelle Salsila al-Dhahabiyya, dans lequel l'imam Shihab ou Zuhri, que les chiites accusent d'être pas honorables. Et donc, c'est Ahsan Silsila. Donc, l'imam Zuhri, Shihab, il dit, c'est leur avis. Ils disent, il peut la révoquer tant qu'elle est dans sa hadda. Donc, ils ne discutent pas qu'elle va aller chez elle ou chez ses parents ou chez quelqu'un d'autre. Ça, tout le monde est d'accord parce que le prophète Sassam sait ce qu'il a fait. Il a procédé ainsi. Mais ils disent, tant qu'elle est dans sa hadda, il peut lui demander le retour. Maintenant, s'il retourne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va lui rendre la contrepartie, ça c'est clair. Sauf lui dit, je ne veux pas. C'est clair, parce qu'il revient à la vie conjugale. Donc, mais ça c'est un avis. C'est un avis. Mais ils disent, il peut faire la révocation et devant témoin. Ça c'est Ibn al-Musayyib et Zuhri. Tandis que nous avons vu la grande majorité, ils disent non. On ne peut pas l'assimiler, il ne peut pas y avoir révocation comme on a vu. Les savants, ils n'ont pas divergé que le khola est valable de la femme malade d'une maladie de mort ou d'une maladie incurable. Rappelez-vous, on en a parlé pour l'homme. On appelait ça talaq al-far, le divorce du fuyard. On a dit, c'est un homme qui atteint d'une maladie incurable, une maladie dont on l'a assuré qu'il va mourir, et il décide de divorcer. Nous avons vu que son divorce est considéré invalide. Ou par exemple, il se marie avec une autre. Il y a ceux qui considèrent ce premier mariage invalide, parce qu'ils disent, elle a choisi lorsqu'elle est malade et qu'il va mourir pour priver la première épouse de ses droits de succession. Donc il y a une cause. Tandis que la femme, ils disent qu'il fait le rôle, elle est sûre, son choix. Et bien là, ils n'ont pas divergé. Son khola, il est valide. Donc pour l'homme, son divorce est invalide. Son mariage est invalide, mais pour la femme, son khola, il est valide. Pourquoi? Parce qu'elle a versé. Pour qu'elle verse, c'est qu'elle est sûre. Tandis que le divorce, là, il n'y a rien du tout de contrepartie, elle s'en va. Donc ils ont vu que si elle a fait cette démarche, c'est qu'elle est sûre de sa décision. Mais ils ont divergé concernant la contrepartie. Donc, ils sont tous d'accord, unanimes, qu'une femme qui est atteinte d'une maladie, dont mort, qui va s'en suivre, est sûre. Ce khola, il est valide. Mais ils ont divergé, ces savants, qui sont unanimes, sur qu'est-ce concernant la contrepartie. L'imam Malik, il dit, elle doit lui donner une contrepartie équivalente à son héritage. Comme ça, on est sûr qu'elle n'a pas voulu le léser. Maintenant, si elle n'a pas que deux casseroles, ben c'est deux casseroles, il n'aura rien. Mais si elle est aisée, c'est qu'ils disent, nous ne voulons pas qu'il y ait de l'injustice aussi commise envers cet homme. Donc, il ne peut pas hériter en plus. La contrepartie va être considérée comme sa part d'héritage. L'imam chef a demandé une dot similaire à sa dot. Il n'a pas dit équivalent à sa part d'héritage, à lui. Donc, elle lui verse l'équivalent de la dot qu'elle a reçu. Les Hanafites, ils ont dit que ce khola est valide pour cette femme malade, mais il ne doit pas dépasser un tiers de ce qu'elle possède. Le tiers. Donc l'imam Malik dit, sa part équivalent à sa part d'héritage, à cet homme, elle doit lui donner comme contrepartie. Shafi'i dit, mahr similaire à la dot qu'elle a reçue, elle doit lui donner. Et l'imam Abu Hanifa dit, je valide ce khola de cette femme malade, mais à condition que ce qu'elle va lui demander ou elle va verser comme contrepartie ne dépasse pas un tiers des biens de cette personne, cette femme. Voilà, donc ça c'est pour, donc concernant la contrepartie. La question qui se pose maintenant à nous, est-ce que le khola, j'en ai parlé, rappelez-vous, j'ai dit que certaines écoles permettent l'utilisation du terme annulation. Alors on va voir un peu avec détail, est-ce que le khola est un divorce ou une annulation du mariage. On va détailler cette question. La majorité des juristes et de nos savants disent qu'il est assimilé à un divorce. Talaq. Car le prophète Salam a utilisé ce terme lorsque Fatima a demandé son khola de son mari Thabit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Thabit, خذ الحديقة وطلقها. Prends le verger et divorce-la. Et le hadith, comme j'ai dit, il est sahih dans le Bukhari et autres. Donc j'ai dit al-jumhur al-ulama wal-fuqaha disent il est assimilable à un talaq, divorce. Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette anecdote de Thabit et de Fatima, il a ordonné à Thabit de retoucher donc la hadiqa et il lui a utilisé le terme watalliqha. Certains autres maintenant, dans lesquels nous avons l'imam Ahmad, Daoud le Zahirite, qui s'appuie à certains compagnons, sur certains compagnons de leur avis, comme Ibn Abbas, Sidna Othman, Ibn Omar, radiallahu anhum jami'an. Donc nous avons dit l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, l'imam Daoud, al-Dahiri, rahimahullah ta'ala, avec ce qui a été rapporté d'après certains compagnons de Rasoul sallam, d'après nous avons cité Sidna Abdullah ibn Abbas, Sidna Othman ibn Affan, et Sidna Abdullah ibn Omar, radiallahu anhum jami'an, ils disent c'est une annulation. Car Dieu subhanahu wa ta'ala a dit que le divorce se fait à deux reprises. At-talaq marratani. Puis, lorsqu'il a parlé de la contrepartie, فإن افتدت. Ah, il dit lorsqu'elle a parlé de l'eftida. Depuis Dieu a parlé de l'eftida. Puis il a dit, et s'il la divorce une troisième fois, elle ne lui est plus permise. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme que lui. Donc ils disent ici, il a parlé de talaq marratani, subhanahu wa ta'ala. Puis il a parlé de la fidya, qui est pour le khala, la contrepartie. Et puis il a dit, s'il la divorce une troisième fois, c'est fini, elle ne peut plus. Elle lui est plus permise jusqu'à ce qu'il se marie avec. Donc il dit, regardez, Dieu a spécifié pour le divorce le terme talaq. Et lorsqu'il a parlé de fidya, il a parlé d'autre chose, il n'a pas utilisé talaq. Donc pour nous, donc, c'est comme si on met fin, cessation à la vie. Donc on annule le mariage. Ça c'est leur ijtihad. C'est leur lecture du verset 2 de la sourate 2, le verset 230. Ils disent, si al-fidya a été talaq, Dieu l'aurait cité dans la lignée de talaq. Il n'aurait pas spécifié par un discours à part. Alors qu'il était en parlé de talaq, de divorce. Donc ça c'est... et ils ont dit, nous validons lorsqu'il s'agit d'une annulation par consentement mutuel. Et ils font une analogie, un parallélisme, si je veux dire, un qiyas sur l'annulation des contrats de vente. Vous savez, on peut faire conclure un contrat, et puis on se met d'accord tous les deux, par consentement, on annule, vous me rendez mon argent, je vous rends votre marchandise, et c'est permis. Ben ils disent, nous on fait un parallélisme. C'est un contrat, kiff kiff. Il rend la contrepartie, et il rend l'autre, il reprend ce qui lui revient de droit, et ici, en l'occurrence, il s'agit de reprendre sa liberté, pour la femme, et donc, ben pour nous, c'est une annulation. Et parmi ceux qui ont... accepter cette tendance et cet avis, c'est Ibn al-Qayyim aussi. Va dans ce sens-là. C'est-à-dire quoi? Dans le sens de l'avis de l'imam Ahmad et Daoud et certains juristes. Voilà, ça c'est comme ça vous avez. Donc, et moi je crois, Allah, d'après ce qu'on a vu dans les premières définitions, il est permis d'utiliser le terme fasqhun ou talaqun. Quelle est la idda de la femme qui est en période de viduité? On a deux avis sur cette question, est le plus fondé, c'est celui que je vais vous donner, parce que l'autre, il est Ijtihad Sidna Othman, radiallahu anhu. Vous avez donc des textes qui disent c'est une seule haïda, un seul cycle menstruel, la haïda de la femme qui s'est défait du lien matrimonial, haïdatun wahida. Bien sûr, imaginons qu'elle a demandé son divorce pendant son haïd, il faut attendre l'autre haïd. C'est pas dit, je suis en haïd maintenant, après deux jours, salam alaykoum. Donc, ça c'est un avis, je vais vous donner leur argument. Et puis vous avez un avis qui dit trois cycles menstruels. Trois haïdat. Alors, les arguments sont les suivants. La première tendance, c'est celui de Sayyidina Othman. C'est l'avis d'Ibn Abbas, d'Abdallah ibn Omar, un des deux avis de l'imam Ahmad, qu'on considère même c'est l'avis le plus plausible dans l'école, de l'imam Ahmad. C'est l'avis d'Ishaq ibn Rahawai, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Taymiyyah. Donc je répète, avis de qui? Othman ibn Abbas, Abdallah ibn Omar, radiallahu anhum jami'an. Nous avons trois compagnons. Puis nous avons une des deux versions, parce qu'on a deux versions d'après l'imam Ahmad, une qui dit trois cycles menstruels, une qui dit un. Et cet avis qui dit que c'est un seul cycle est la plus, on va dire, presque authentique, d'après ce qui est rapporté d'après Ahmad. C'est l'avis d'Ishaq ibn Rahawai, et cet avis aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah, qui disent un seul cycle menstruel. Il se réfère à quoi? Eux, ils vont se référer à la question de Thabit et de sa femme. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et on nous dit, donc dans cette version, qui est rapportée par Nasa'i, je répète, c'est pas le hadith là, le hadith c'est autre chose, il parle de la légitimité de la démarche, ce qu'il doit lui donner, et qu'il est obligé d'accepter. Mais là, ici, de la Idda, c'est un hadith rapporté par Nasa'i, et ces hommes sont des hommes jugés honorables. Fiqat, fiqa. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, le prophète sallam a ordonné à Fatima de passer par une période de viduité d'une haïda, d'un seul cycle menstruel, et de rejoindre sa famille. C'est clair ? Maintenant, la majorité, c'est-à-dire l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa et les autres juristes, si on ne voit pas Daoud Dahiri, c'est qu'il est avec aussi, Ibn Hazm, toutes ces écoles, ce qu'on se base-t-il ? Se base sur le texte du Coran. Donc, le Coran et les autres hadiths sunna qui sont nombreux, qui parlent que le cycle menstruel d'une femme après un divorce, c'est 3 cycles. Donc, il revient à ce qu'on appelle la position de base. Puisque si on assimile un divorce, bah, pour ce qu'on appelle Bara al-Rahim, être sûr que la femme n'est pas enceinte, eh ben, on doit passer par les 3 cycles menstruels. Donc, ils reprennent, d'accord, le khula, c'est la femme qui demande, mais la idda, elle est la même. Puisque la finalité de la idda, c'est quoi ? C'est de donner le temps de révocation, mais donner aussi le temps d'être sûr qu'il n'y a pas de grossesse et un retard d'un mois à cause d'un dérèglement hormonal ne peut pas être une preuve pour savoir si elle est enceinte ou non. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont fixé la idda à 3 cycles. C'est clair ? Donc voilà, ça c'est l'avis de la majorité. Moi je me place avec cet avis-là. Parce qu'il se réfère plus au Coran et aux beaucoup de textes de hadith. Ils sont nombreux. Ils fixent donc, lorsqu'il y a séparation matrimoniale, qu'on aille à 3 cycles menstruels. Alors maintenant, je vais parler maintenant de... Puisque je parlais de l'cholak, c'est une démarche de la femme, c'est une voie par laquelle la femme cherche à se libérer. Maintenant, on va parler d'autres questions, puisqu'on parle en vérité de divorce et de cholak, c'est une séparation. Est-ce qu'il peut avoir d'autres causes pour séparation ? Oui. Dans le droit musulman, on a parlé beaucoup de ça. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas. Et comme j'ai dit, malheureusement, ce que l'islam il est victime de l'ignorance des musulmans et des musulmanes, et que cette ignorance est utilisée pour faire, soi-disant, propager un discours qui dit que la femme n'a aucun droit et elle doit se défaire de cet islam et même s'y opposer. Alors que Et que vous avez, même dans certains statuts de personnel de la famille musulmane de certains pays musulmans, où on choisit des avis parfois qui sont des avis non fondés, et qui donnent une idée que la femme, lorsqu'elle se marie, elle est esclave et elle ne peut plus disposer de sa vie. Et alors, la réaction est une réaction grave, où on va emmener les femmes à dire, il faut lever majalat l'ahwal al-sharsiyya al-islamiyya parce qu'elle est injuste envers la femme. Alors que nous avons dans les livres de droit des chapitres clairs, et on les a repris dernièrement, par exemple, dans le nouveau code de la famille au Maroc, et beaucoup de gens ont applaudi, alors que c'est du droit musulman. Il y a beaucoup de choses qui sont du droit. Alors ici, par exemple, at-tafriq, la séparation prononcée par le juge, à cause de quoi ? À cause, par exemple, de non-acquittement des devoirs familiaux, au niveau de la pension alimentaire, c'est-à-dire la prise en charge familiale, l'homme ne le fait pas. Monsieur, il rentre quand il veut. Il ne paie pas de loyer, il ne paie pas d'électricité, il ne paie pas à manger à sa femme ni à ses gosses, il ne soigne personne. Et la femme doit, mesquine, aller s'endetter, demander à ses parents, elle doit travailler pour s'acquitter. Alors que nous avons vu que l'infaq, la prise en charge de la famille, incombe à l'homme. C'est un devoir. Et c'est même la cause qui motive le mariage. Aux jeunes gens, celui d'entre vous qui peut assumer une responsabilité familiale, qu'il se marie. Donc il n'a pas dit celui qui est viril ou celui qui a un mâle. Parce que si on ne sait pas assumer les responsabilités qui découlent de cette union, parce qu'il y a des situations qui font que la femme, rappelez-vous, on en a analysé ça, elle perd toute indépendance économique en acceptant de se marier parce qu'elle va tomber enceinte et elle devient incapable de subvenir à ses besoins. Alors il faut que l'homme soit là pour lui apporter cette sécurité économique, selon ses moyens dont elle avait connaissance et qu'elle doit assumer. Donc, et c'est pour ça, ils disent, nos savants, donc, est-ce qu'il y a tafriq où ils disent oui, le juge peut prononcer la séparation quand une femme quand elle est devant un homme qui n'assume pas ses responsabilités telles que la prise en charge familiale. Ça, c'est une. Deux, à cause de défauts physiques. Et les défauts physiques sont nombreux. Parce que nous avons vu que peut avoir demande de divorce et d'annulation lorsque l'homme découvre qu'il y a des défauts. Mauvaise haleine. De l'un ou de l'autre. Hein. Et qu'on ne peut pas résoudre ça médicalement, l'islam dit, ben, l'homme divorce. Et la femme aussi peut demander de séparer d'un homme qui sont mauvais. C'est son droit. Mauvaise odeur des parties intimes. Al-Bahar, ça s'appelle ça. Et nous en avons parlé, surtout du côté de la femme, est une cause de séparation. Un homme qui a des parties génitales très petites. L'annin, on appelle dans les livres de droit. La femme demande le divorce. Et il est obligé d'accepter. Le juge l'oblige s'il refuse. Donc, ça s'appelle le uyoub. Des défauts physiques cachés et qu'on n'a pas dit. Parce qu'il y a eu de la malhonnêteté. Et donc, le juge prononce le divorce. Même si l'homme ne veut pas, il l'oblige. Ça s'appelle donc firaq at-tafriq. Séparé min ajl al-uyoub. Il y a des défauts, et surtout si c'est le côté de l'homme. L'homme, il prononce le divorce, si les défauts, il est là, mais la femme, elle n'a pas besoin à ce moment-là de faire le khola. Elle dépose sa plainte, voilà, pourquoi, et le juge prononce séparation, tafriq. Donc, ça, il ne s'agit plus même de khola ici, on ne parle pas de khola, là. C'est le juge qui donne à la femme sa liberté par manquement au devoir, tel que la prise en charge, ou à cause de défauts. Ils disent ici, donc, le juge l'oblige si personne n'arrive à lui faire prendre conscience pour qu'il accepte. Ils disent, le juge l'oblige. Et c'est la position de la majorité. C'est clair ? Maintenant, imaginons le juge a obligé de se séparer, donc il est divorce. C'est un divorce révocable. C'est-à-dire, ils peuvent reprendre. Ça, c'est l'avis des malikites. Et les chafiites et les hanbalites, ils disent, il n'y a pas de révocation, c'est comme une annulation. C'est-à-dire, il ne peut pas lui dire, tu restes période d'invidité et je peux te révoquer. Les malikites disent oui. Tandis que les chafiites et les hanbalites, ils disent, si c'est le juge qui sépare pour à cause de ces défauts-là, c'est un divorce irrévocable, non définitif bien sûr, mais il n'y a plus de révocation. Parce que nous avons vu que la femme, pendant la révocation, n'a pas le droit de refuser. Si elle refuse, alors elle va demander ce qu'on appelle khola. C'est une autre démarche juridique. C'est clair? Bien. Et donc nous avons dit, et pour des défauts, les défauts peuvent être des défauts, donc j'ai dit sexuels, ou des défauts répugnants. Qui répugnent. Et ça donc, et c'est l'avis de la majorité, donc le divorce peut avoir lieu, et donc... l'imam Malik et Shafi'i va plus loin. L'imam Malik et Shafi'i va plus loin. Ils disent, s'il s'agit de défauts graves, physiques ou sexuels, ils disent, l'imam Malik et Shafi'i, le mariage, ils disent, il est annulé. Tel que par exemple, il parle de la lèpre. On a dit qu'elle est grave, parfois elle est contagieuse. Ou comme nous avons dit, les maladies sexuelles ou autres. Ici, l'imam Malik et Shafi'i parle de fasr. Annulation. Donc ça, c'est leur avis. L'imam Ahmad, et lorsqu'il s'agit de maladie, il dit qu'on ne peut pas guérir. Maladie qu'on ne peut pas guérir, parce qu'il y a certaines maladies ou certains défauts qu'on peut guérir, et à ce moment-là, il y a possibilité d'intervention. Je ne sais pas, moi, imaginons un homme, la femme dit « je veux divorcer parce qu'il a les dents qui sortent, etc. » Ben, nos savants contemporains, ils ont permis ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice. Il ne faut pas prendre tout pour chirurgie réparatrice, faites attention. Hein. Mais nos savants sont des gens très conscients et ils disent, lorsque c'est un défaut qu'on peut réparer, on le répare. Ce qu'on ne permet pas, c'est ce que Dieu a donné est acceptable, la personne veut la changer. Ça c'est haram, ça s'appelle la chirurgie esthétique, elle est interdite. Mais la chirurgie réparatrice, on a des avis de grande qualité auprès de nos savants. Tels que des dents qui sont déplacées ou quoi, ou un homme qui a perdu trois dents, ben, l'islam lui permet, nous savons, quand on lui permet d'aller transplanter trois dents. Ou une femme qui a des dents qui dépassent, et que son mari la regarde, il dit, tu as toutes les qualités, mais à la râle, tes dents, moi, ça me répugne, et ben, on lui donne avis d'aller faire une intervention pour réparer ce défaut, ou bec de lièvre, etc. Ça, c'est tout à fait permis par nos savants, parce que ça s'appelle de la chirurgie réparatrice. Mais la chirurgie esthétique, non. Ça, c'est clair, on ne peut pas accepter. Et alhamdoulilah, là, on a un domaine qui est très spacieux, très ouvert, et qui montre la souplesse et le réalisme de cette loi de Dieu, que les savants ont compris. Donc, l'imam Ahmed, il dit, si c'est d'agir des maladies, qu'on ne peut pas vraiment guérir, soigner. À ce moment-là, ils disent qu'il y a séparation. Et c'est l'avis de l'imam Zuhri, de Shuraih al-Qadi, le fameux imam al-Qadi Shuraih, d'Abu Thawr aussi, grand savant, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Qayyim aussi. Donc il dit, chaque fois que c'est quelque chose qui est établi, qu'on ne sait pas guérir, qu'on ne sait pas soigner, il dit, on peut donc demander séparation pour cela. Et ici, par exemple, comme quelqu'un qui marche avec un pied qui est handicapé, ou la cécité, ou la surdité, ou quelqu'un qui a un problème, je ne sais pas moi, jambe coupée suite à une maladie. Et que la personne dit, d'accord, mais moi, je ne peux pas assumer dans l'intimité lorsque je vois ce pied ou quoi, ou cette jambe coupée. De même, par exemple, la stérilité, ça donne droit de part et d'autre en islam. C'est pas uniquement l'homme, la femme le droit aussi. De dire, moi j'aimerais bien avoir des enfants, c'est mon droit. C'est un droit absolu. Donc, elle a le droit. Donc, et la vie des Hanbalites, en vérité, ils vont loin et disent, nous on va pas, on fixe pas des limites ou un nombre, on recense pas le nombre et de causes. Tant qu'il s'agit de causes qui répugnent et qui on peut pas soigner, il peut y avoir séparation. Les savants disent, mais quelqu'un qui demande séparation, je ne parle pas de khola ici, hein, qui demande séparation alors qu'il avait connaissance du défaut, il ne peut pas obtenir gain de cause. Donc la femme ne peut pas dire au juge, je ne sais pas prononcer la séparation parce qu'elle a un défaut. Non, on lui dit, mais surtout si elle seule le savait, il ne peut pas. La même chose pour l'homme. Donc il va demander soit talaq, soit al-fafr khola. Donc, ils disent, si la demande de séparation n'est pas jugée valide, s'il y avait information et connaissance de ce défaut au moment du contrat. S'il a accepté au moment du contrat, il ne peut pas dire, ah non, je ne suis pas d'accord maintenant. Donc, il doit assumer. Imaginons maintenant que le défaut survient après le mariage. Les savants ont divergé. Les malikites permettent la demande d'annulation de la part de la femme si ce défaut est survenu après le mariage. Et le contraire, ils ne l'acceptent pas. Donc ils acceptent que la femme demande que le juge prononce séparation pour un défaut sur une action mariée après le mariage, mais ils ne permettent pas que l'homme demande séparation d'un défaut survenu après le mariage de sa femme. Il doit faire la démarche du divorce. Donc ça, c'est la position des malikites. Ils disent, les hanafites, ils disent, il n'est pas permis après consommation qu'on demande annulation. Donc, les hanafites permettent. Tandis que, donc, ils disent, non, ils ne permettent pas, j'ai dit. Tandis que les chefs des hanbalites, ils disent, on peut demander annulation pour le défaut, puisque j'ai dit, ils n'ont pas défini les défauts. Donc, il reste logique avec leur avis et leur argument. Alors, maintenant, question, qui est contemporaine. Hein. Un homme est marié à une femme, surtout c'est la femme qui est mariée, et son mari a été emprisonné. Emprisonnement longue durée. Habs, aw-sijn, les deux sont de l'arabe littéraire. On dit al-habs ou aw-sijn. C'est de l'arabe littéraire. Parce que beaucoup de gens croient que le mot habs est un terme dialectal. Non. C'est un terme littéraire qu'on trouve dans les livres de droit. Donc, il y a donc emprisonnement ou il y a longue absence. Monsieur, il part, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Moi, j'ai reçu, par exemple, le cas de certaines sœurs. J'ai dit, il est parti, et j'ai plus de nouvelles. Il ne m'a pas divorcé, et il n'a rien du tout. Il est parti, et lorsque je suis même allé, on a eu des litiges, mais il ne m'a pas dit tout à l'heure, il ne m'a rien dit, il est parti, il n'y a pas de nouvelles, je vais chercher ici sa mère. On me dit, il a déménagé, il n'habite plus ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis marié ou pas marié, moi? Est-ce que je suis divorcé ou pas divorcé? Ben oui, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala a dit clairement qu'on ne doit pas laisser la femme qu'elle mu'allaqa, suspendu entre ciel et terre, ni épouse ni divorcé. Haram. C'est haram dans notre religion. C'est ce qu'il faisait avant dans la période du Jahiliya. Lorsqu'un homme il était en colère contre sa femme, et il faisait un serment par lequel elle reste suspendue. Il ne l'approchait pas, plus de vie conjugale ni intime. Donc elle n'est pas femme, elle n'est pas divorcée. Malqa. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, comme veut. Mais ce n'est pas son objet. Il lui appartient le lien matrimonial, oui, mais pas à la personne. Comprenez? Le lien matrimonial fait qu'on appartient à quelqu'un. Bizzawaj. Qu'on a accepté. Mais ce n'est pas notre personne qui appartient. Nous sommes les esclaves de Dieu. Et c'est beaucoup de nos frères ne font pas la différence entre qu'il y a propriété du lien matrimonial et entre le fait que sa femme elle est son objet, sa propriété. Mais non. Et l'homme aussi n'est pas la propriété de la femme. La propriété c'est le lien matrimonial et non pas la personne. Nous n'en appartient à personne qu'à Dieu. Hommes et femmes. Donc ici, donc on a cette situation, soit emprisonnement, mais qui dure, soit une longue absence injustifiée. Les Malikites disent, pour ces deux causes-là, ils permettent donc la séparation. Donc ils disent, surtout lorsqu'il s'agit d'un emprisonnement qui dure. Ça va ? Al-Ghayba, maintenant, pour la longue absence, les Malikites et les Hanbalites l'ont permis. Mais pas les Shafiites. Je répète, l'emprisonnement, les Malikites l'ont permis. Uniquement, ils sont les seuls. Il est en prison, je ne veux plus rester avec lui. Elle va chez le juge et il prononce tafriq, chez les Malikites. Les autres, ils ne sont pas d'accord. Pour la longue absence, les Malikites qui le permettent, les Hanbalites, et les Shafiites et les Hanafites ne le permettent pas. Longue absence. C'est clair ? Maintenant, s'il y a séparation maintenant, qui a été prononcée, si cette séparation a eu lieu avant la consommation, vous allez me dire, mais pourquoi ? Mais parce que le contrat il est signé, donc le lien il est là. Parce qu'en islam, même s'il n'y a pas eu rapport par la consommation conjugale, si le contrat a été signé des deux partenaires, ils sont mariés et femmes légalement. C'est-à-dire, l'islam leur donne droit de sortir tête à tête et même d'aller de vivre leur intimité, même s'il n'y a pas ni maison ni rien du tout. Simplement, je vous ai dit, les Malikites, ils exigent l'ishhar, l'annonce publique, pour être sûr. Pour qu'on ne rentre pas dans les litiges. Après, non, elle est enceinte, pas de moi. On lui dit, mais non. Lilat al-dukhul, lilat al-dukhla, comme disent les Égyptiens, nous en arabe, on dit lilat al-dukhul, la nuit de la consommation, vous avez fait le mariage, on a entendu tu, c'est qui, c'est Abdallah et Fatima qui se marient ce soir. Donc, si on fait le calcul, ben c'est toi qui as consommé, c'est pas quelqu'un d'autre. Les Malikites exigent l'ishra. Pour qu'on n'entre pas, c'est de zara, imaginez les Malikites. On ferme la porte devant ce qui peut arriver après. Ça, c'est la politique des Malikites. Les autres, ils n'exigent pas l'ishra. Il y a contrat, il y a eu tuteur, témoin, d'autres, le mahar. On a signé le contrat en consentement mutuel et tout. Ils sont mariés femmes, hein. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas à attendre qu'on fasse la fête, le hirs ou et tout ce qui suit avec, etc. Ils sont des époux légalement. L'important, c'est qu'il y a un contrat. Et donc, mais il peut avoir, tafriq, il peut avoir des situations où l'un ou l'autre demande séparation avant de consommer. À ce moment-là, les Hanafites disent il y a le droit à la moitié de la dot de la femme, nusf al-mahr. Nous sommes d'accord ? Les Malikites. Ils disent, elle n'a rien du tout, puisqu'il n'y a pas eu de consommation. Les Shafi'ites, annulation, pour des fois on parle, ou pour des causes pareilles, avant consommation, il n'y a pas de dot. La même chose, la position des Hanbalites, pas de dot, elle n'aura rien, puisqu'il n'y a pas, il n'y a rien. Si c'est après la consommation maintenant, les Hanafites, toute la dot. Elle a le droit à toute la dot, puisqu'ils ont consommé, donc c'est vivre mari-femme, et par la consommation, la femme a le droit à son mar. Les Malikites, la même chose. Après consommation, la dot. Elle a le droit à tout le mar. Les Shafi'ites, après la consommation, Elle a une dot similaire, s'ils n'ont pas fixé. On appelle ça mahr al-mithl dans le langage juridique. Et les hanbalites disent qu'elle aura le droit à la dot qui était citée, après consommation. Donc en vérité, nous voyons qu'ils s'accordent tous, après la consommation du mariage, et il y a séparation, la femme a le droit à sa dot. Et pas dire parce qu'il y a un défaut, non, ça n'a rien à voir. Ça va? Donc, j'ai dit, donc l'annulation c'est quoi? C'est le fait de défaire le lien conjugal à cause d'un défaut dans le contrat ou à cause d'une cause. C'est-à-dire il y a une motivation qui a survenu, qui fait que le lien ne peut plus durer. C'est ça ce que veut dire une annulation. Par exemple, je vous donne des exemples d'annulation. On a su que l'épouse, elle est une sœur par le lait du mari. Il n'y a pas de divorce ici, ça a lieu. Dans beaucoup de situations, malheureusement. C'est pour ça, lorsqu'on a l'aide de quelqu'un, il faut en informer. Il ne faut pas jouer ce jeu-là. On laisse ça auprès de vous, de votre femme, un petit enfant d'un frère, ou de votre frère, ou de sa sœur, ou d'une voisine musulmane, et le bébé pleure, elle n'a pas de lait, elle lui donne son sein alors qu'elle est à l'aide. Il faut qu'elle dise à sa mère, j'ai allaité ton fils. Elle doit le dire. Il ne faut pas jouer. Donc il arrive que des femmes ont allaité et ne le disent pas. Et ils se marient avec elle. Et bien là, il n'y a pas de divorce ni rien du tout. Annulation. Enfin, pourquoi? Parce que le mariage n'a jamais existé. Puisqu'elle fait partie des interdits. Min al-mawana. Rappelez-vous. Al-nasab, min al-mawana al-zawaj. La relation donc consanguine est une des causes d'empêchement du mariage. Fazawaj la yaqa. Donc on ne parle pas de mariage. On ne peut parler de divorce que lorsqu'il y a mariage. Nous sommes d'accord? C'est une annulation. Un exemple. Par exemple, un des deux époux, il s'apostasie. Il renie l'islam. Homme ou femme, il n'y a pas de divorce ici. Annulation. Parce qu'une musulmane ne peut pas vivre avec un kafir. Un musulman ne peut pas vivre avec une personne qui dit que Dieu n'existe pas. Et comme vous savez, le musulman ne peut épouser qu'une vraie chrétienne ou une vraie juive. Quelqu'un qui dit je crois dans une force mais ce n'est pas Dieu, il ne peut pas l'épouser. Il ne peut pas épouser une laïque, il ne peut pas épouser une athée, il ne peut pas épouser une polythéiste. Il ne peut pas. Il ne peut pas épouser une d'une secte qui est apparue dans l'histoire du monde musulman et qui renie la prophétie de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui met en cause la prophétie de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est plus que répréhensible, même que beaucoup de savants interdisent qu'une musulmane épouse un chiite. On a des fatwas de raccommodage maintenant. Elle a épousé un chiite, ou il était sunnite puis il devient chiite. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont des enfants. Certains savants disent, à cause de l'enfant, on dit faites durer l'union, mais ne lui obéissez pas dans ce qui est haram chez les sunnites. Pour accommoder. Et on en a parlé, rappelez-vous, par exemple, s'il lui demande dans l'intimité des rapports anneaux, qui est permis chez les chiites, chez les sunnites, c'est haram, interdit. Du texte du Coran. Et des hadiths de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, elle refuse. Certains permettent la durée de l'union parce qu'il y a un risque de, à cause des enfants. Et d'autres disent même avec enfants, séparation. Mais le principe, non. Parce qu'après, on va entrer dans une situation vicieuse, de désaccords qui peuvent déstabiliser le couple à ne jamais finir. Surtout si l'un des deux joue à l'endoctrinement, forcé parfois. À ce moment-là, mais on a des sectes qui sont apparues dans notre histoire, eux qui mettent en cause même les principes de l'islam. Si on parle, je ne sais pas moi, des Yazidites, si on parle des Ismaïliyas, si on parle des Khawarij extrémistes qui considèrent Al-Sunna des kuffars qu'il faut assassiner, si on parle, je ne sais pas moi, des Baha'iyas, on ne peut pas se marier avec eux. Des Ahmadis, on ne peut pas se marier avec eux. C'est clair, parce que c'est d'autres doctrines, notre doctrine. Donc ça, ce sont des choses qui sont claires, ou par exemple de Druze. On respecte les choix des gens, mais nous, on ne peut pas se marier. De toute façon, eux-mêmes, ils n'acceptent pas de se marier. Donc voilà. Donc, ça, c'est. Donc, il y a une annulation que nous avons dit, telle que Ridda, l'apostasie de d'un des époux. Ils disent, par exemple, donc l'annulation peut avoir lieu tout de suite. Lorsqu'il y a annulation, c'est tout de suite. On ne dit pas demain. Si ça sort de par le lait, il ne faut pas dire vous permettez qu'on passe encore la nuit ce soir. Mais non, fini! Tout de suite, il n'y a plus de lien. C'est clair? On n'attend pas parce qu'il y a des empêchements légaux. Donc il est annulé d'office, et donc on ne peut pas... imaginons par exemple l'annulation, par exemple, à cause de la puberté. C'est-à-dire, un père a obligé sa fille à se marier, mais il a fait le contrat, mais il n'y a pas consommation. Mais dès que la fille arrive à la puberté, il dit, moi je mets en cause, je ne veux pas me marier. Ben, on annule. Pourquoi on annule? Parce que une des conditions n'est plus là, c'est le consentement. Parce qu'il y a des conditions pour que le contrat soit valide. Parmi les conditions de validité, à taradi, il n'y a plus de consentement, ben, il n'y a plus de mariage. C'est tout. On annule. C'est clair? Donc ça, c'est pour ce qui est de cette question. Bien. Je crois que je vais m'arrêter, Inch'Allah, à ce niveau, parce que le prochain sujet est un sujet qui est long et qui est continu. C'est un nouveau chapitre, Inch'Allah, si Dieu le veut, dont nous traiterons, si Dieu le veut. C'est l'Edda. Donc nous allons parler, Inch'Allah, avec détail, qu'est-ce que la période de viduité. Et donc nous parlerons, Inch'Allah, de la Edda dans toutes ses approches, selon les différentes situations. Nous parlons de la Edda de la femme qui n'a pas son cycle menstruel, de la femme enceinte, de la Edda du veuvage. Nous parlerons de la Edda du non-musulman, marié à un non-musulman. Donc nous parlons, Inch'Allah, de la Edda de la femme dont le mari est disparu. On ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante. Comment est-ce qu'elle doit faire? Ce qu'on appelle mafrout, le disparu. Est-ce qu'elle reste... parce qu'on a des avis dans le fiqh qui sont extraordinaires. Hein, parce qu'ils vont lui demander de se séparer à cause de l'absence et de la nuisance. Mais ils lui disent qu'il n'est pas mort. Il y a des écoles, ils vous disent qu'elle doit le considérer vivant, l'équivalent de la vie d'un homme du même âge, de la même origine, etc. Pourquoi? Pour ne pas défaire déjà les liens et en même temps pour ne pas disposer de son héritage aussi. Hein. C'est-à-dire, si son père meurt entre temps, sa part reste là, on ne touche pas. Et lui, on ne peut pas aussi aller se partager sa fortune, on ne peut pas. Donc on a les avis des écoles et on a des avis. Donc nous parlerons, Inch'Allah, des règles qui concernent l'Edda, où la femme doit-elle passer sa Edda? Est-ce qu'elle peut sortir la femme durant la Edda? Et nous parlons bien sûr des choses interdites qui ne doivent pas se passer pendant la Edda et bien sûr des conséquences du divorce alors que la femme est pendant, durant sa Edda. Donc ça c'est un chapitre à part. Lorsque Dieu veut qu'on termine ce chapitre, on passera directement à la prise en charge des enfants en cas de divorce. Le Havana qui pose problème, nous allons voir vraiment la finalité et toute cette philosophie de l'islam par rapport à le Havana par lequel on cherche l'intérêt de l'enfant avant tout. Et quel comportement les parents doivent avoir lorsqu'ils divorcent pour ne pas que les enfants deviennent comme un otage, sujet de surenchère, qui en priorité à la prise en charge, al-hadana, on va voir selon les écoles, vraiment l'ordre. Et puis nous parlons aussi des droits des enfants et des droits des parents de part et d'autre. Le chapitre, le dernier, c'est celui de l'mut'a. C'est-à-dire ce cadeau de séparation qui montre la grandeur de l'islam dans cette relation homme-femme. Et puis après, je vous donnerai un petit aperçu sur le mula'ana. On ne la fait pas alors qu'on doit la faire, même s'il y a absence de magistrature. C'est-à-dire une femme qui, avec preuve, elle a trouvé son mari, pas qu'on lui a dit, elle l'a trouvé couché avec une autre femme dans le lit. Dans un rapport haram. Ou vice-versa. Comment est-ce qu'ils se séparent en islam? Ils vont se séparer. Hein. Firaq. Mais bil mula'ana actuellement, parce qu'on n'a plus. Et donc, on parlera de cette mula'ana, inshallah. Et si Dieu le veut, inshallah, je crois qu'on aura assez de temps, si Dieu le veut, j'aimerais bien finir tout ce cycle sur le droit familial par une conférence, j'aimerais bien qu'elle soit une conférence publique, sur les causes des conflits familiaux. Donc les conflits familiaux, leurs causes, et quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour que le couple ne tombe pas dans des situations de conflit, inshallah ta'ala. Ce sera donc la dernière conférence, si Dieu le veut, pour cette série de conférences sur le droit familial. As-salallahu subhanahu wa ta'ala, naj'alana wa iyakum min yastami'u al-qalba fattabi'una ahsana. Allahum fa'na bima tu'allimuna wa fa'bina uzna'al mani ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.